Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, Chine, États-Unis, faudra-t-il choisir son camp ? C'est devenu la principale raison d'être des grands sommets internationaux, permettre l'organisation de rencontres bilatérales. Ainsi, le sommet du G20 de vendredi et samedi prochain à Osaka au Japon, l'occasion pour les présidents chinois et américains de s'entretenir en tête-à-tête et de tenter d'atténuer leurs différends commerciaux. Voilà des mois que ça dure, sur fond de hausse des droits de douane, de listes noires d'entreprises et de compétitions acharnées sur le terrain technologique. Le commerce, c'est la guerre. Xi Jinping et Donald Trump en donnent un bon aperçu. Le risque, c'est de voir ce conflit dégénérer sur le terrain militaire et peut-être davantage encore sur le terrain idéologique. La Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, finissant par défendre des modèles et des valeurs diamétralement opposées. Voilà qui reviendrait à recréer un monde bipolaire, comme au temps de la guerre froide, mais avec un nouvel acteur dans ce nouvel ordre mondial. Alors Chine-États-Unis, faudra-t-il choisir son camp ? C'est la question du soir, en compagnie de deux invités. Alexandra Dobschaeffer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, des relations transatlantiques, directrice du think tank German Marshall Fund of the United States. J'avais promis que j'arrêterais l'émission le jour où je réussirais à prononcer correctement le nom de votre think tank. Est-ce que c'est bon?
C'est excellent.
Et ben voilà, donc ce sera bientôt la fin. Pour discuter avec vous, Alice Ekman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI, Institut français des relations internationales. Là, ça coule tout seul. Vous avez publié aux éditions du CNRS en 2018, l'an dernier, donc la Chine dans le monde. Alors, je voudrais qu'on commence cette discussion avec ce qui semble être le point de tension le plus important en ce moment, c'est-à-dire la rivalité et les sanctions nouvelles que viennent d'imposer les États-Unis à l'Iran et cette réaction du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui appelle les deux parties à garder leur sang-froid et leur retenue. Est-ce que vous diriez, Alice Ekman, que c'est une forme de minimum syndical que cette réaction de la diplomatie chinoise, ou bien est-ce que c'est quand même quelque chose de relativement inhabituel ?
La Chine aime se positionner face à un Donald Trump qui apparaît virevoltant, parfois imprévisible, aime se positionner aujourd'hui comme puissance responsable. Bien sûr, c'est une posture de communication, mais elle joue beaucoup sur ce positionnement, notamment depuis l'avant-dernier Davos, où déjà Xi Jinping parlait d'une Chine garante du multilatéralisme et de la mondialisation. Aujourd'hui, elle se positionne comme garante de l'accord sur le nucléaire iranien, garante d'autres accords commerciaux, garante de l'accord de Paris sur le climat. Disons qu'elle joue la carte de la responsabilité au moment même où elle essaye de combler le vide laissé par les États-Unis. Donc elle joue sur le contraste États-Unis qui se désengagerait de certains accords et Chine qui resterait, qui tiendrait parole, qui resterait engagée. Encore une fois, nous sommes ici dans une relation de communication, avec une guerre de communication qui finalement touche tous les points de tension. Parce que sur Hong Kong, Donald Trump s'est exprimé. Sur l'Iran, même si c'est un enjeu de toute la nature, Xi Jinping ou les autorités chinoises s'expriment. Sur le Venezuela, ils ont des positions diamétralement opposées. Sur les nouvelles routes de la soie, une guerre de communication se développe puisque les États-Unis n'hésitent pas à souligner les faiblesses telles que perçues par Washington du projet. Donc, à chaque point de tension, l'un et l'autre apparaissent défendre des positions diamétralement opposées, ce qui m'amène à dire que les tensions ne sont pas que commerciales, elles sont politiques, géostratégiques et même idéologiques.
Il faut dire, pour rester encore un instant sur l'Iran, que c'est un dossier qui intéresse la Chine, puisque la Chine fait partie des pays signataires de l'accord nucléaire de 2015, et par ailleurs, la Chine importe beaucoup, en tout cas essayer d'importer beaucoup, puisqu'avec les sanctions, ça devient plus compliqué, mais de pétrole iranien, Alice Ekman.
Oui, bien sûr, il y a des intérêts économiques, des relations aussi politiques existantes, mais dans le cas iranien, je pense que c'est surtout un positionnement politique que la Chine aujourd'hui essaye de défendre sur la scène internationale, encore une fois, en jouant la carte de la prévisibilité communiquée comme telle.
Une position de sagesse et d'équilibre côté chinois pour contrebalancer, pour répondre à la position américaine incarnée par un Donald Trump dont on dit toujours qu'il semble imprévisible, Alexandra de Hopschaeffer.
Alors c'est vrai qu'on est dans une situation qui est finalement très différente de de la guerre froide qu'on a connue au moment de l'Union soviétique, puisqu'on a une Amérique qui agit très différemment sur la scène internationale. On a un président américain qui effectivement agit comme un disrupteur, et donc il est face à une puissance chinoise qui, elle, finalement, va utiliser les mêmes éléments de langage qu'a toujours utilisé l'Amérique, c'est-à-dire le multilatéralisme, l'importance des alliances, d'agir ensemble, etc. Donc on a une inversion, un effet miroir un peu étrange du système de valeurs aujourd'hui que promeut la Chine et les États-Unis. Ce qui est aussi très intéressant sur le cas iranien, c'est la manière dont la Maison-Blanche a utilisé un allié asiatique de premier plan, le Japon, avec Shinzo Abe, qui a plus ou moins agi comme envoyé spécial de Trump il y a quelques jours en Iran pour, comme il a dit, essayer d'apaiser les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Donc ce qui est très intéressant aussi de constater, c'est la manière dont la Chine et les États-Unis se rivalisent aussi sur le plan des alliances. La Chine essaie de faire craquer le système d'alliance des États-Unis en Asie et plus largement en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Et les États-Unis essayent finalement de les préserver, ou alors tout d'un coup Trump redécouvre l'importance de ces alliances pour finalement faire avancer les objectifs américains, que ce soit au Moyen-Orient, en Amérique latine ou en Europe.
Alors les États-Unis ont quand même un atout majeur dans leur manche, c'est notamment leur monnaie, le dollar, qui est la monnaie des transactions internationales, avec un régime juridique qui l'accompagne, hein, qui permet de faire parler l'extraterritorialité du droit américain. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer aussi que, on a l'impression, Alexandra Dobscheffer, que Donald Trump finalement se préoccupe assez peu des conséquences que peuvent avoir ses actions à l'international, parce qu'il sait que de toute manière, il a cette carte en main qui est une carte maîtresse?
Alors effectivement, il joue à fond sur le rôle du gendarme économique que les États-Unis ont toujours joué, mais c'est véritablement l'instrument qu'il utilise le plus. C'est vraiment la puissance économique, la puissance financière américaine à fond. D'ailleurs, il l'a dit lors de sa campagne présidentielle, « I'm a tariff guy », je suis un mec des sanctions. Donc, il sanctionne. Et en fait, cette surutilisation des sanctions, que ce soit à l'égard des rivaux ou que ce soit à l'égard de nous, alliés européens ou japonais ou autres, c'est un substitut à une politique étrangère qui finalement manque beaucoup de cohérence. Donc il surutilise cet outil, il pense qu'à force d'utiliser cette arme financière économique, ce chantage finalement financier économique américain, qui va obtenir des gains sur le plan notamment politique et stratégique. Or, on voit que 2 ans et demi après le début de son mandat, les résultats sont quand même très, très, très médiocres.
Cette surutilisation, elle est vécue comment par les Chinois et par la Chine, Alice Ekman? Est-ce qu'elle est subie, ou bien est-ce qu'il y a la tentative de proposer peut-être justement un autre modèle qui serait notre modèle financier, qui serait adossé à la monnaie chinoise?
Oui, les tensions commerciales Chine-États-Unis joue aujourd'hui le rôle d'accélérateur du développement de l'alternative chinoise. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est conçue à Pékin. Certes, vous agissez de telle manière, nous allons répondre. Finalement, on observe aujourd'hui une relation œil pour œil, dent pour dent, avec la Chine qui elle-même a une position ferme dans le contexte des négociations commerciales, et avec en ligne de mire... toujours ce plan alternatif. Tout à l'heure, Alexandra parlait d'extraterritorialité. À moyen ou long terme, c'est envisageable aussi d'anticiper une extraterritorialité du droit chinois. Ça pourrait être possible. En tout cas, dans la stratégie chinoise, il y a une volonté d'être moins dépendant des outils et des normes, des standards, des institutions développées par d'autres pays, et en premier les États-Unis, de proposer de nouveaux outils, de nouvelles normes, de nouvelles institutions, mais aussi de nouvelles définitions. Et Alexandra parler d'une confusion en termes de discours. La Chine aujourd'hui défend plus que jamais des termes qui ont été autrefois utilisés par les États-Unis, mais avec des définitions extrêmement différentes. Et elle souhaite non seulement que ces définitions soient alternatives, mais elle souhaite que ces définitions deviennent des références pour le monde. La définition chinoise du libre-échange, multilatéralisme, n'est pas la même que celle des États-Unis. Et à terme, elle souhaite promouvoir cette définition. Mais pour revenir sur les sanctions sanctions. La Chine aussi utilise des sanctions. Très clairement, déjà en 2017, quand la Corée du Sud a développé sur son territoire national le bouclier antimissile américain SAD, la Chine a exprimé son mécontentement en sanctionnant des conglomérats sud-coréens présents sur le sol chinois, et également en réduisant le flux de touristes chinois se rendant en Corée du Sud. De même, lorsque la présidente Tsai Ing-wen a été élue à Taïwan en 2016, la Chine a limité les flux de touristes chinois se rendant sur l'île, et les flux touristiques, c'est une arme économique comme une autre, c'est un outil de sanction dans un contexte où le système politique chinois permet de développer des sanctions qui sont parfois plus abruptes et peut-être plus durement ressenties par d'autres pays que dans des contextes démocratiques. Pourquoi ? Parce que la Chine peut dire à un certain nombre de tour opérateurs, par exemple, demain, ne mettez plus cette destination au menu des tours proposés par vos clients. Donc on a vraiment une gestion de l'économie qui est alignée avec les orientations politiques et géopolitiques, et particulièrement sous Xi Jinping.
Il n'y a pas de crainte aux États-Unis des milieux économiques, par exemple Alexandra de Hoopscheffer, que cet abus du l'utilisation de l'arme financière et monétaire par Donald Trump finissent par se retourner contre les États-Unis, et que certains de ces, si ce n'est les alliés, mais enfin en tout cas qu'un certain nombre de pays soient tentés par l'alternative qui pourrait être proposée par la Chine.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est vraiment une tendance là qui commence à s'affirmer. Je dirais que le grand défi pour les États-Unis aujourd'hui, la grande question, c'est comment finalement répondre efficacement à ce défi chinois qui représente véritablement un défi sur tous les plans technologiques, économiques, stratégiques, sans que cela coûte trop à l'économie américaine. Or, qu'est-ce que l'on voit ? C'est qu'il y a effectivement un effet boomerang. On commence à évaluer le coût concrètement pour les ménages américains. Une étude récente montre que ça représenterait un coût de 106 milliards de dollars par an, environ 800 dollars par an par ménage américain. On a vu tout un mouvement aussi venant du monde des affaires et des entreprises américaines qui ont publié des lettres donc publiques en disant il faut que cette guerre commerciale cesse entre les États-Unis et la Chine puisque ça a un impact sur nos business. On a aussi tout le lobby des agriculteurs qui commence à se rendre compte, notamment sur le soja, que ces sanctions et les contre sanctions chinoises affectent directement aussi ce pan de l'agriculture américaine. Les grandes boîtes de tech, de technologiques, Apple, sont aujourd'hui obligées de déplacer, ou de réfléchir en tout cas à déplacer la chaîne de production en dehors de la Chine et de déployer ça dans d'autres pays du Sud-Est qui finalement sont les bénéficiaires de cette guerre commerciale, notamment Taïwan, le Vietnam, l'Indonésie, etc.
Est-ce que ça a un impact aussi, Alexandra de Hoopscheffer, sur les alliances traditionnelles des États-Unis, c'est-à-dire est-ce qu'on voit, si ce n'est des changements brutaux d'alliance, enfin, en tout cas des mouvements qui commencent à s'opérer alors peut-être pas des États-Unis vers la Chine, mais enfin, en tout cas un éloignement de certains alliés des États-Unis qui se mettent en position peut-être un petit peu plus neutre, disons.
La stratégie chinoise, en tout cas sur le long terme, et la manière aussi dont c'est de plus en plus perçu à Washington, c'est effectivement de briser finalement ce système d'alliance sur lequel les États-Unis se sont appuyés depuis plus de 75 ans. C'est finalement d'extraire de l'orbite américain un certain nombre d'alliés, que ce soit en Asie, en Europe, mais on le voit aussi de plus en plus en Amérique latine, mais également en Afrique, de sortir de plus en plus d'alliés traditionnellement alliés aux États-Unis et de les intégrer de plus en plus dans l'orbite chinoise à travers notamment...
Mais ça c'est la Chine qui a une politique proactive en la matière, ou bien ce sont pas plutôt les États-Unis qui laissent filer peut-être ses alliés?
C'est les deux, c'est exactement les deux. C'est d'abord des investissements très très agressifs de la part de la Chine. Ça se manifeste par la route de la soie, par toutes ces biais-là. Mais il y a également une responsabilité de la part du camp dit occidental, américain notamment, puisque les États-Unis ont finalement permis à la Chine d'émerger sur ces différents pans des régions en Afrique, en Amérique latine, etc., en finalement se désinvestissant petit à petit. Et moi, ce qui me frappe, c'est notamment l'Amérique latine. Ce que l'on voit au Venezuela, c'est frappant. La Chine et la Russie, d'ailleurs, sont aujourd'hui les deux acteurs principaux de la crise au Venezuela. En Afrique, la Chine ouvre sa première base militaire de Djibouti il y a quelques années, à côté de la base militaire française et américaine. C'est quand même un signal. Et ça montre aussi la manière dont la Chine, de manière très astucieuse, et en seconde, je veux dire de manière secondaire, la Russie, vont exploiter ces semi-vides stratégiques petit à petit laissés par les États-Unis notamment, mais aussi nous, Européens, en n'ayant aucune stratégie sur l'Europe ou sur l'Afrique ou autre, et va devenir un acteur, en fait, de plus en plus indispensable sur le plan géopolitique. Et ça, c'est une évolution qui s'est véritablement accélérée ces 5-10 dernières années.
Alice Ekman, la Chine, elle le fait de manière très opportuniste, c'est-à-dire elle occupe le vide qui est laissé par les États-Unis, ou bien est-ce que ça rentre dans le cadre d'une stratégie très définie qui consiste à faire en sorte que le pays gagne de plus en plus en puissance et nous de plus en plus d'alliances à travers la planète?
Clairement, ça rentre dans le cadre d'une stratégie. Combler le vide, c'est un vide circonstanciel. Elle le fait surtout depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais déjà sous Hu Jintao, qui est le prédécesseur de Xi Jinping, qui était au pouvoir de 2002 à 2012, il y avait une stratégie de restructuration de la gouvernance mondiale, de promotion d'un nouveau type de relations internationales, expression aujourd'hui largement utilisée par Xi Jinping. Et puis il y a aussi une approche particulière de l'alliance, qui est hostile. Le concept même d'alliance n'est pas reconnu par la Chine. Il n'a jamais été reconnu, en tout cas la Chine n'a jamais cherché à développer un système d'alliance. Elle n'avait pas les moyens auparavant, sous Mao, sous Deng Xiaoping. Mais ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, c'est que sous Xi Jinping, la Chine officiellement conteste ce principe de l'alliance.
Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous rend prisonnier peut-être à long terme,
disent, c'est trop contraignant. De mon point de vue, c'est trop contraignant, c'est-à-dire qu'on devrait défendre des alliés même lorsque ça nous coûte cher ou lorsqu'ils ont mal agi. Donc c'est très contraignant. C'est vieux jeu, hein, c'est un héritage de la guerre froide, voire avant. De toute manière, ce n'est pas assez flexible, pas assez souple. Et donc, lorsqu'on interroge des diplomates chinois aujourd'hui sur le plan de la Chine, est-ce que la Chine ambitionne de signer des traités d'alliance demain après-demain, puisque maintenant elle a la possibilité de le faire, elle a des relations privilégiées avec certains pays, que ce soit le Pakistan, certains pays d'Asie du Sud-Est comme le Laos et le Cambodge, on pourrait même penser à l'Algérie, au Maghreb par exemple, elle a des pays avec elle, elle a des relations coopération économique importantes, voire stratégiques. La Chine dit clairement non, nous ne projetons pas de signer de traité d'alliance, mais plus que ça, nous proposons quelque chose de nouveau pour le monde, qui est un nouveau type de partenariat de sécurité en Asie Pacifique et au-delà. Et selon même le dernier concept officiel prononcé lors du Shangri-La Dialogue à Singapour, les officiels chinois ont parlé de nouveaux modèles de coopération de défense. Alors concrètement, lorsqu'on interroge la Chine sur cette dimension, on peut dire que c'est qu'un effet d'annonce, mais en fait, non. Alors, tout d'abord, la Chine organise des forums de sécurité, c'est-à-dire des rencontres multilatérales, où elle arrive quand même à rassembler un certain nombre de pays. Lorsque l'on dit que la Chine est isolée, ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, lorsque l'on observe les forums et le nombre de participants, le niveau des participants, on se rend compte que la Chine est moins isolée qu'auparavant, et notamment avec le développement d'une relation avec la Russie de plus en plus proche complète. Mais non seulement elle organise un nombre croissant de rencontres multilatérales, elle renforce des exercices militaires conjoints, et surtout, elle renforce des partenariats économiques que l'on peut considérer comme géostratégiques à long terme, en disant tout le monde est le bienvenu, tout le monde est bienvenu pour rejoindre nos initiatives. C'est-à-dire, vous pouvez être allié des États-Unis et partenaire de la Chine. Donc ça crée, vous comprenez, Hervé, une ambiguïté stratégique, parce que d'un côté, nous avons les États-Unis qui espèrent clarifier l'alliance, notamment par ce nouveau groupement Indo-Pacifique, c'est-à-dire vous êtes nos alliés, nous sommes une alliance solide, stable, forte, sans laquelle nous pouvons avoir confiance. Et de l'autre côté, on a une Chine qui dit vous pouvez être l'un et l'autre. Et donc cette ambiguïté stratégique est d'intérêt pour la Chine, mais elle crée un certain nombre de questionnements, parce qu'aujourd'hui même, des choix technologiques, c'est-à-dire non militaires, non sécuritaires, sont interprétés comme des choix géostratégiques. Donc par exemple, ça positionne des pays comme Singapour, qui sont des partenaires de sécurité des États-Unis importants, mais aussi des partenaires économiques importants de la Chine, dans une position très ambiguë, parce qu'ils souhaitent se positionner à équidistance, mais concrètement, doivent-ils ou non développer la 5G Huawei sur leur territoire? Ils n'ont pas répondu encore à la question. Pourquoi? Parce que la réponse va être interprétée par Pékin ou par Washington selon une connotation géopolitique et géostratégique.
Alors ça renvoie justement à la question qu'on pose ce soir. Chine-États-Unis, faudra-t-il choisir son camp? Vous nous dites, Alice Ekman, côté chinois, non, on peut tout à fait rejoindre une alliance tout en faisant, non pas une alliance en tout cas, mais on va dire un groupe de coopération tout en étant membre d'une autre alliance. Ça, c'est une approche radicalement différente de la politique étrangère américaine, Alexandra Dobschaeffer.
C'est vrai que quand on discute avec des représentants de l'administration Trump, que ce soit à la Maison Blanche, au Pentagone, au Département d'État ou même auprès des membres du Congrès américain, on se rend compte à quel point leur prisme effectivement est bipolaire et se bipolarise de plus en plus. Hein. Ils sont vraiment dans une logique de nouvelle guerre froide.
Une vision, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre
nous. Exactement, voilà. Et on le voit dans tous les domaines, hein, que ce soit la route de la soie, le Belt and Road, que ce soit Huawei, toutes et même la banque asiatique, donc d'investissement pour les infrastructures, où finalement la pression américaine sur les alliés européens n'a pas fonctionné, puisque la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie ont très rapidement rejoint l'initiative chinoise. Aujourd'hui, la route de la soie, le Belt and Road Initiative, il y a 14 pays de l'Union européenne qui ont souscrit. Huawei en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, ça fait un peu débat, mais on se dit on va peut-être pouvoir trouver une solution pour quand même travailler avec Huawei sur la 5G, parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et c'est là où finalement il y a un mouvement de panique à Washington face à l'absence d'alternative américaine à la 5G. Ça, c'est un facteur très important. Face à la rapidité de l'étendue de l'influence chinoise partout en Europe, en Amérique latine et en Afrique, et aussi par les échecs répétitifs à l'OMC pour trouver une solution, ou en tout cas pour traiter les pratiques commerciales injustes de la Chine. Donc il y a vraiment une grosse frustration côté américain. Et cette vision bipolaire aujourd'hui que finalement Obama avait concrétisé dans le fameux terme G2. Il avait lui-même parlé d'un G2 Chine-États-Unis qui allait peut-être ensemble redéfinir les règles de l'ordre international. L'enjeu de cette bataille, de cette compétition stratégique entre États-Unis et Chine, et va bien au-delà de Huawei, de la technologie, etc. C'est vraiment la grosse question, c'est quelle puissance de la Chine et des États-Unis va redéfinir les règles de l'ordre international du 21e siècle. Et ça, c'est très très prégnant dans le débat américain. Et pour conclure, America First, l'Amérique d'abord, veut avant tout
slogan
dire
qu'on
profite
de
notre
Trump.
Statut encore de grande puissance, de plus grande puissance.
Ah non, c'était America Great Again, pardonnez-moi, j'ai dit une bêtise. Oui, donc, America First, non mais je faisais une incise et qui était pas pertinente.
Exactement, donc ça sous-tend véritablement l'idée, d'ailleurs Trump l'a vraiment verbalisé de cette manière-là, c'est comment profiter encore du statut de grande puissance, de plus grande puissance mondiale que sont encore les États-Unis aujourd'hui, pour essayer de négocier et obtenir le meilleur accord avec la Chine. Et c'est ça avant tout l'Amérique d'abord.
Cette vision d'un monde bipolaire, est-ce que vous diriez l'une et l'autre qu'elle correspond à la réalité? C'est-à-dire est-ce qu'effectivement aujourd'hui on en est à une rebipolarisation, alors sans aller jusqu'à évoquer le temps de la guerre froide, on sait bien que comparaison n'est pas raison, mais en tout cas est-ce qu'on a vraiment deux grandes puissances avec deux systèmes concurrentiels qui sont vraiment proposés et entre lesquels il faut choisir. En 2015, il y avait un article très intéressant de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer sur cette question justement, et qui disait pour qu'il y ait une bipolarité qui émerge à nouveau, il y a quatre conditions. Il faut de l'espace, donc un repli américain, c'est-à-dire pour que la Chine puisse s'immiscer, ça manifestement c'est le cas. La Chine doit continuer à croître jusqu'à arriver au niveau des États-Unis, au niveau économique, ça y est, on y est. L'écart de puissance doit se creuser entre les deux premiers et le reste du monde. Là aussi, on voit bien que Chine et États-Unis sont loin devant tout le reste. Et c'est le dernier, c'est là-dessus que je veux vous interroger. Un nombre croissant d'États doit se sentir contraint de choisir entre les deux. Alice Ekman.
Nous ne sommes pas encore dans une rebipolarisation effective du monde, mais nous sommes au début d'un processus de rebipolarisation. En tout cas, nous pourrions arriver à l'avènement, oui, d'une bipolarisation. Et cette comparaison avec la guerre froide est intéressante, même si toute proportion gardée, nous sommes dans deux périodes historiques différentes, deux contextes économiques très différents. Et souvent, l'argument qui est avancé, c'est de dire, mais à l'heure de la mondialisation et à l'heure de l'interdépendance économique encore forte entre la Chine et les États-Unis, nous ne pouvons pas avoir deux blocs distincts qui ne se parlent plus ou qui n'échangent plus, ne serait-ce que d'un point de vue commercial, ça ne fait pas sens.
Mais la guerre froide, elle était caractérisée par deux projets idéologiques extrêmement différents l'un de l'autre. Est-ce que c'est aussi le cas aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que le projet idéologique que propose la Chine n'a rien à voir avec le projet idéologique que proposent les États-Unis aujourd'hui?
Oui, de mon point de vue, oui, clairement, puisque nous sommes dans une situation inédite. La première économie mondiale, la deuxième économie mondiale, fonctionnent très différemment. Leur système politique et leur système économique est très différent. Leur vision du rôle de l'État dans l'économie est très différente. Leur bureaucratie, le fonctionnement de l'État est très différent. L'agencement, voilà, je veux dire, vraiment, nous sommes dans ces systèmes très différents. Non seulement il y a cette différence-là, mais avec Xi Jinping, il y a une volonté de la part de la Chine de promouvoir ses idéaux dans le monde. Les discours sont clairs là-dessus. Le 19e congrès, son discours lors du 19e congrès du Parti communiste chinois, il expliquait que la Chine devrait soutenir le bien de l'humanité et a un rôle à assumer, notamment pour les pays en développement. Un an plus tôt, Yang Jiechi, qui supervise la diplomatie chinoise, expliquait qu'il était temps que la Chine ait confiance dans son propre système de gouvernance et le fasse partager au reste du monde. Donc, dans les discours, il y a cette volonté de partage d'un modèle de gouvernance. Alors la Chine n'utilise plus toujours le terme de modèle qui est un peu galvaudé, alors elle parle de solution chinoise ou d'expérience pour le monde, mais grosso modo elle se positionne comme un exemple, notamment vis-à-vis des pays en développement, en soulignant les chiffres de la croissance, etc. Mais au-delà du discours, dans les faits, la Chine maintenant, compte tenu de ses capacités technologiques, compte tenu de ses capacités de production, propose à un nombre croissant de pays des infrastructures qui, de facto, orientent ce pays vers un modèle ou un autre. En tout cas, quand la Chine propose à un nombre croissant de pays, dans le cas des nouvelles routes de la soie, des zones économiques spéciales ou des parcs industriels, tels qu'il en a émergé, se sont multipliés sur le territoire chinois depuis Deng Xiaoping, ça oriente des pays selon une structure de leur économie et de leur territoire un peu particulière. De même, quand la Chine aujourd'hui se positionne comme leader dans le domaine des smart cities, ce terme à la mode des villes intelligentes, elle le fait selon le modèle des villes qu'elle développe sur son territoire, c'est-à-dire des villes qui développent un réseau de surveillance particulier, voilà, avec une forte centralisation, un système de crédit social. Aujourd'hui, elle ne vend pas encore ce système de crédit social à l'étranger, mais peut-être demain elle le fera. En tout cas, l'agencement en termes de sécurisation de la ville aujourd'hui est déjà sur le marché. Et donc, c'est pas qu'une compétition de business, c'est pas qu'une question technologique, c'est une compétition, oui, de mode de gestion urbaine dans le cadre des smart cities. Donc, c'est très intéressant à analyser. Et juste pour revenir sur le point de la guerre froide, dernier petit point, si vous me le permettez. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une période de dépendance économique entre la Chine et les États-Unis. Mais cette réduction à la dépendance économique pourrait s'accélérer. Et à terme, oui, même si nous ne serons pas dans deux blocs distincts, nous pourrions avoir deux pôles, avec chacun des pôles développant des relations commerciales intra-pôles et finalement moins d'échanges commerciaux Chine-États-Unis. Dans ce contexte-là, oui, l'un et l'autre pourraient prendre des décisions politiques et géostratégiques plus fermes sans avoir peur des conséquences et des retombées économiques sur leur propre marché.
Vous voyez les choses de la même manière, Alexandra Dobschefer?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir cette bataille entre les États-Unis et la Chine au travers du prisme aussi européen, puisque l'Europe aujourd'hui est un peu coincée au milieu des deux grands, des États-Unis et de la Chine. Et donc, le grand enjeu pour les Européens, c'est de se dire, est-ce qu'on va se contenter d'être l'échiquier sur lequel se joue cette compétition entre ces deux grandes puissances, ou est-ce qu'on va être un acteur? Et si on est un acteur, dans quelle mesure est-ce qu'on va s'aligner justement sur le discours et la politique de Trump, ou dans quelle mesure est-ce qu'on va devoir aussi coopérer, continuer à coopérer avec la Chine? Et donc la question, et ça me rappelle d'ailleurs un intellectuel chinois, on lui avait posé la question dans le cadre d'un dialogue trilatéral Chine-États-Unis-Europe, comment envisagez-vous le futur de la relation entre la Chine et l'Europe? Il avait eu cette phrase que je trouve assez représentative, il a dit: nous espérons que le jour où les États-Unis entrent en guerre avec la Chine, que l'Europe restera au moins neutre. Voilà. Et donc, effectivement, on ne peut pas choisir, c'est pour répondre à votre question, entre les États-Unis et la Chine, en raison de l'imbrication de nos économies. Aujourd'hui, la Chine est le troisième partenaire commercial des États-Unis après le Mexique et le Canada, et le deuxième partenaire de l'Union européenne après les États-Unis. Donc, rien que pour cette raison, on ne peut pas choisir. Et donc, la manière, d'ailleurs, dont l'Europe gère cette relation entre les États-Unis et la Chine est finalement très pragmatique. C'est-à-dire que sur certains sujets où il y a quand même des convergences politiques avec les États-Unis, on coopère avec les Américains, et sur d'autres sujets, typiquement la question climat, les États-Unis se décident de retirer de l'accord de Paris, eh bien nous, on continue à coopérer avec la Chine sur ce sujet précisément. Et on le voit également sur l'accord nucléaire iranien. Donc il y a un espèce d'effet balancier permanent que l'on opère déjà de facto entre les États-Unis et la Chine. Bien sûr, les Américains sont très agacés, notamment par l'étendue de cette route de la soie qui s'étend partout en Europe, hein, sur notre résistance à leur pression sur la G5 et Huawei. Mais je pense que c'est très bien aussi que les Européens s'affirment face aux Américains et disent bah écoutez, nous, c'est pas tout à fait la manière dont on souhaite, nous, gérer notre relation avec la Chine.
Mais il y a quand même une dimension absolument déterminante, en tout cas normalement, dans l'histoire des relations internationales, Alexandra Dobscheffer et Alice Eckmann, alors qu'ils portent pas sur les considérations économiques, mais sur les valeurs politiques, avec cette idée quand même que l'Europe et les États-Unis partagent la question des droits de l'homme, un projet des droits de l'homme, des démocraties libérales, ce qu'on appelait l'Occident, justement. Est-ce que ça n'est plus aussi important que ça pouvait l'être autrefois, ou bien est-ce que c'est parce que ces valeurs sont peut-être en train de s'éroder avec cette réorganisation de l'ordre mondial?
Oui.
Alexandra Dobscheffer,
oui,
ensuite
Alice Eckmann. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la Chine perçoit les États-Unis aujourd'hui sous prisme-là aussi, sur le prisme du cette espèce de craquement de ce système de valeurs qui nous liait États-Unis et Européens. On a aujourd'hui un président à la Maison Blanche qui ne promeut pas du tout les mêmes valeurs qu'on avait l'habitude d'entendre véhiculées par le président américain en Europe. Regardez ce qui se passe entre nous, où on a une majorité aujourd'hui de pays en Europe qui ne soutiennent plus ce même système de valeurs. La liberté de la presse recule dans tous les pays aujourd'hui en Europe. Le droit à l'avortement est remis en question également dans beaucoup de pays, y compris aussi dans certains États aux États-Unis. Donc ce système de valeurs, effectivement, qui est un pilier absolument fondamental de ce qu'était cette relation transatlantique et qui d'ailleurs forme le socle de toutes ces organisations internationales post-Seconde Guerre mondiale, l'OTAN, l'ONU, l'OMC, qui existent encore aujourd'hui, eh bien on voit que ça affaiblit aussi ces institutions. Et c'est là où vous avez du coup la stratégie chinoise qui intervient. Vous avez aussi la stratégie russe qui intervient, puisque cette espèce de ramollissement justement de ces valeurs qu'on avait l'habitude de soutenir mais qui craquaient un petit peu partout, sont une opportunité qui est saisie par ces deux pays-là.
Alice Eckmann.
Deux choses. Tout d'abord, il y a une confusion entretenue autour des valeurs aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, la Chine a intégré les éléments de langage utilisés par l'Union européenne, par les États-Unis dans son discours international.
Et donc, c'est-à-dire, elle parle de droits de l'homme, par exemple.
Bien sûr, elle parle de droits de l'homme. C'est un terme qu'elle utilise beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Notamment pour contrer le discours critique sur les droits de l'homme en Chine. C'était très intéressant quelques années après que Xi Jinping ait pris le pouvoir. C'était au lendemain du troisième plénum. Donc le plénum avait été tourné autour du thème de l'état de droit. Et au lendemain du plénum, beaucoup d'observateurs avaient dit bah voilà, la Chine met en place un état de droit sur son territoire. Alors bien sûr, c'était un affichage et c'était un jeu sur les mots. Et la situation n'était pas du tout celle que pensaient les observateurs. Certains observateurs européens et américains. Il y a un travail de décryptage et de clarification à faire qui commence, notamment à Bruxelles, en disant attention, nous utilisons les mêmes mots, mais ce ne sont pas du tout les mêmes sens. Mais toutefois, cette confusion autour des mots et des valeurs et des idées proposées par la Chine de manière officielle a des conséquences sur les accords multilatéraux signés. Quand la Chine incite certains pays du G20 à lutter contre la corruption, sa lutte anticorruption a une dimension beaucoup plus politique, alors qu'elle a déployé sur son propre territoire la campagne anticorruption, qu'elle essaye aussi d'internationaliser pour pouvoir rapatrier des cadres sur son territoire. Donc il y a vraiment aujourd'hui un besoin de clarification qui est émergent, mais dans la pratique diplomatique, ce n'est pas évident de clarifier des termes alors que la Chine elle-même joue sur cette confusion des mots. Puis deuxième chose, au-delà de la confusion, sur le fond, certains pays se retrouvent dans des idées promues par la Chine.
Russie
et Chine, par exemple, Russie et Chine sont d'accord sur le principe de non-alliance, par exemple. Russie et Chine, ils ont eu une vision très critique du système d'alliance dans leur environnement géographique proche. Russie et Chine s'accordent sur la définition du terrorisme. Ils incluent le séparatisme dans la définition du terrorisme. Un nombre croissant de pays autoritaires, notamment en Afrique, sont intéressés par la capacité de la Chine à maintenir l'ordre sur son propre territoire. Et donc, les solutions chinoises peuvent aussi être attractives aux yeux de dirigeants qui souhaitent rester en place. Donc, et puis la Chine aussi, par exemple, est contre ce qu'elle appelle le changement de régime, regime change. Et donc, cette position est aussi attrayante pour certains dirigeants et certains gouvernements. Donc, on voit bien aussi que non seulement il y a une confusion entre pays qui ne partagent pas les mêmes valeurs ou qui ne défendent pas les mêmes valeurs. Et dans ce domaine-là, il y a un besoin urgent, de mon point de vue, de clarification. Mais par ailleurs, sur le fond, il y a aussi des convergences en fonction du système politique de chacun des pays. Et encore une fois, je pense qu'il est temps de prendre acte que la Chine n'est pas seule, pas pour porter des jugements de valeur, mais juste pour prendre acte d'une compétition entre modèles de développement et système politique qui est aujourd'hui déjà lancée depuis plusieurs années, qui est particulièrement rude, qui est menée par différents pays sous différents axes. Mais si certains pays veulent prendre part à cette compétition de système politique ou de valeurs, il faut encore prendre acte de l'existence d'une compétition. Sinon, on n'est plus du tout un participant à cette course.
Avec la crainte, la peur que cette compétition ne dégénère, il y a quelque temps une interview très intéressante dans Courrier International d'un géopolitologue chinois, peut-être le connaissez-vous l'une et l'autre, Yan Xuetong, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, et qui dit, alors l'interview est assez longue, j'en cite qu'un extrait, mais il dit ceci, notamment dans le cas des litiges concernant des intérêts matériels, donc il parle bien sûr de la compétition entre la Chine et les États-Unis, il existe une marge pour la conciliation. En revanche, lorsque les conflits prennent une dimension idéologique, ils deviennent une question de vie ou de mort, parce qu'aucun des deux systèmes, aucun des deux pays ne peut reconnaître qu'il a tort. C'est finalement peut-être ça le plus grand risque, Alexandra de Hopschaeffer.
La compétition vraiment entre les États-Unis et la Chine, comme on l'a dit, dépasse très largement ces questions commerciales, technologiques qui sont certes importantes, mais c'est vrai que ça a un effet de débordement très rapidement sur les aspects politiques et idéologiques. C'est quel type de modèle politique on défend aujourd'hui, quel type de règles est-ce qu'on défend pour gérer l'ordre international. Et là, effectivement, on a deux conceptions différentes. Et en même temps, on a une Chine qui aujourd'hui, et on l'a dit, emprunte énormément d'éléments de langage qu'on peut utiliser les Européens et les Américains à l'heure où justement les États-Unis à l'ère Trump et un certain nombre de pays européens ne défendent plus ces valeurs. Donc c'est là où vous avez aussi une espèce d'inversion et c'est là où nous sommes extrêmement faibles. Il y a vraiment une crise de crédibilité des idées qu'on avait l'habitude de défendre. Et quand vous avez la plus grande puissance que sont encore les États-Unis d'aujourd'hui qui remet en cause ces principes même qu'ils ont aidé à construire avec nous, Européens, il y a 75 ans à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, là, vous avez un vrai problème. Parce que si le pilier ne défend plus ces valeurs-là de démocratie, d'alliance, de concertation, de consultation, l'importance de se consulter avant de prendre une décision. Je pense que la pire erreur stratégique aujourd'hui de l'administration Trump dans sa gestion de la problématique chinoise, c'est qu'il le fait sans ses alliés et notamment sans nous, Européens, alors qu'on est censé être le partenaire le plus important, puisque on voit très bien qu'aujourd'hui les Européens et les Américains convergent beaucoup dans le diagnostic de ce que représente la Chine aujourd'hui. Or, on est complètement exclu de la politique américaine. Et là, à mon avis, c'est sa plus grande erreur. Parce qu'on pourrait être un vrai partenaire pour les Américains.
Un tout dernier mot, ce sera la conclusion, Alice Ekman.
S'installe aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis un dialogue de sourds qui pourrait être dangereux. Parce que c'est non seulement des références différentes, une éducation différente, une façon de voir le monde différente. Là, je parle de par la formation politique. Hein. Je ne parle pas de culturalisme. C'est pas parce qu'ils sont de deux pays différents, mais ils sont issus de formations et d'habitudes et de contextes politiques différents. Donc, non seulement il y a cet décalage de perception qui s'installe, mais il y a de plus en plus, on note à haut niveau, une incapacité à se mettre à la place de l'autre, à percevoir la perception de l'autre. Et ça, en relation internationale, ça peut être dangereux.
Eh bien, merci beaucoup à l'une et à l'autre d'avoir participé à cette discussion. Alexandra de Hoppe-Scheffer et Alice Ekman. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre fidélité. Vous avez été souvent présente dans cette émission et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier plus largement, parce que je vais essayer d'égrener un petit peu les remerciements pour que tout ne soit pas dit vendredi soir. Mais un grand merci à toutes et tous nos invités de ces 8 année, ça a été à chaque fois un vrai plaisir de vous recevoir. Voilà, merci à l'équipe du Grain, évidemment, Antoine Tricot, Jordan Joseph, Fanny Richer, Virginie Leduo et Antoine Dulster, émission réalisée par Peyret Le Gras, avec à la prise de son Jacques Hubert. Dans 3 minutes, on va aller à l'opéra avec vous, Arnaud Laporte.
C'est vrai. Et vous me remerciez quel jour à peu près pour que je sois à l'écoute quand même?
Je vous remercie tous les jours que Dieu fait, vous le savez.
Ah, c'est vrai?
Eh oui, bien sûr.
Ça continuera l'an prochain, j'espère.
Voilà, je me mets à genoux devant mon lit et je fais une prière.
À vous. On va pas tout savoir. On va parler d'opéra, en effet. Mais moi, j'aimerais savoir de quoi vous allez parler demain dans le Grain à Moudre.
De gaspillage. On est foutu, on jette trop. Ce sera la question de demain.
Et vous allez la chanter, là?
On verra.
Bon, on sera à l'écoute, évidemment. Pour l'instant, on est à l'écoute de France Culture, évidemment, aussi. Et on retrouve Aurélie Kiffer pour les titres de l'actualité.